Parcours sur FM+, André Bourguet au micro, bonjour et bienvenue. Nous reprenons, comme chaque mois, pour une heure, le cours public de la faculté de théologie protestante de Montpellier sur Luther, pour nous pencher aujourd'hui sur l'autorité de Luther. Et c'est le professeur Christophe Saint-Gens de cette faculté qui aborde la question. Autorité qui a donné lieu à une statification en Allemagne, que Christophe Saint-Gère commentera à partir de diapo, mais il passera très vite au contenu spirituel et théologique.
En fait, j'ai choisi de traiter dans cette question Luther comme figure d'autorité une toute petite partie de cette thématique. Et alors, j'étais bien triste de devoir le faire parce que je me suis aperçu que ça ne tiendrait pas en une heure et j'ai laissé tomber les questions du développement, des développements dans de l'orthodoxie ou plutôt des orthodoxies luthériennes et de leur actualité aujourd'hui parce que je me suis dit que finalement, creuser la question de l'autorité chez Luther, pour Luther et Luther en tant qu'autorité, ça pouvait se faire de manière plus féconde en commençant par Luther lui-même, c'est-à-dire en lisant. Tout simplement Luther. Il y a une douzaine d'années, un synode national de l'Église réformée de France sur le thème « Annoncer Jésus-Christ dans une société laïque ». Qu'est-ce qui fait autorité dans notre vie ? Je n'avais pas compris à l'époque le lien entre le titre et le sous-titre. Et au fur et à mesure, en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, on est en plein cœur de quelle nature peut être l'autorité de Luther ou l'autorité dont témoigne Luther à travers l'histoire. Mais d'abord, une petite introduction, ce que j'ai appelé le choc des mots. Alors, j'ai fait des jeux de mots faciles, naturellement, le choc des mots. Je vais vous lire quelques extraits de l'épître sur l'art de traduire, que Luther, l'épître sur l'art de traduire et sur l'intercession des saints, un petit opuscule que Luther a écrit en 1530. Vous l'aurez tout à la fin, mais ça, je voulais vous le lire pour que vous l'entendiez plutôt que ne le lisiez. Cet opuscule, en tout cas la première partie sur l'art de traduire, se présente comme la réponse à une question qui lui aurait été faite par un correspondant, une question que pose au correspondant des catholiques qui critiquent la traduction de la Bible par Luther, et en particulier un passage tout à fait particulier et essentiel pour la réforme de la traduction de Luther. Alors Luther formule comme ça la question qu'on lui pose et la critique qu'on lui fait. Comment il se fait qu'au troisième chapitre de l'Épître aux Romains, j'ai traduit les paroles de Paul, arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus, de la façon suivante, nous tenons que l'homme est justifié sans les œuvres de la loi, seulement par la foi. Et vous indiquez de plus, il s'adresse à son correspondant, que les papistes font les arrogants parce que le mot sola, seulement, ne se trouve pas dans le texte de Paul, et que cette adjonction à la parole de Dieu, qui vient de moi, est intolérable. Alors, Luther a écrit ce petit opuscule pour qu'il soit publié. Ce n'est pas simplement la correspondance privée qui se retrouverait par hasard finalement publiée. Donc il assume tout à fait publiquement ce qu'il écrit et que je vais vous lire maintenant. Voilà la réponse. En tout cas, la première partie de la réponse, la deuxième partie, je vous la lirai tout à la fin. Si moi, docteur Luther, j'avais pu me douter que les papistes, tous en tas, étaient assez habiles pour pouvoir traduire exactement et justement un chapitre de l'Écriture, je me serais sûrement laissé toucher par l'humilité et je leur aurais demandé aide et assistance pour traduire le Nouveau Testament. Mais comme je savais et vois encore de mes yeux qu'ils ne savent en aucune façon comment l'on doit traduire ou parler allemand, je considère cet effort comme superflu et pour eux et pour moi. Il n'est défendu à personne de faire une meilleure traduction. Celui qui ne veut pas lire la mienne, qu'il la laisse de côté. Si j'y ai fait quelques fautes, je ne souffre pas que les papistes en soient juges, car ils ont encore maintenant de trop longues oreilles pour cela. Et leur i-an est trop faible pour juger mon art de traduire. Pour revenir à la question elle-même, si votre papiste veut faire tellement l'arrogant au sujet du mot « sola » seulement, dites-lui sur le champ ceci. Le docteur Martin Luther veut que les choses soient ainsi et il déclare « Un papiste et un âne sont une seule et même chose. » Car nous ne voulons pas être les élèves ni les disciples des papistes, mais leurs maîtres et leurs juges. Et nous allons aussi, pour une fois, nous glorifier et nous vanter avec ces têtes d'âne. Et de même que Paul se glorifie contre ces saints insensés, alors, l'écriture de Luther est parsemée de réminiscences et d'allusions scripturaires, naturellement. Et de même que Paul se glorifie contre ces saints insensés, je vais aussi me glorifier contre mes ânes. Ils sont docteurs, moi aussi. Ils sont savants, moi aussi. Ils sont théologiens, moi aussi. Ils sont disputeurs, moi aussi. Ils sont philosophes, moi aussi. Ils sont dialecticiens, moi aussi. Ils sont enseignants, moi aussi. Ils écrivent des livres, moi aussi. Et je veux continuer à me glorifier. Je peux expliquer les psaumes et les prophètes, ils ne le peuvent pas. Je peux traduire, ils ne le peuvent pas. Je peux lire l'Écriture sainte, ils ne le peuvent pas. Je peux prier, ils ne le peuvent pas. Et que je sois anéanti si je ne connais pas mieux que tous réunis leur propre dialectique et leur philosophie. Je ne m'avance pas trop ici, car j'ai été élevé et formé dès ma jeunesse au moyen de leur science, et je sais parfaitement bien combien elle est profonde et vaste. Ça, c'est l'ironie. Ils se pavanent ainsi magnifiquement dans leur science, ils m'enseignent ce que j'ai foulé sous mes pieds il y a 20 ans, de telle sorte qu'il me faut chanter avec la prostituée, donc là c'est une allusion à un chant populaire de l'époque, de telle sorte qu'il me faut chanter avec la prostituée en réponse à leurs criailleries et à leurs beuglements. Il y a 7 ans que je sais que les clous à ferrer sont en fer. C'est là ma réponse à votre première question. La deuxième, c'est sur l'intercession des saints. Et je vous prie de bien vouloir ne rien répondre de plus aux vaines criailleries de ces ânes au sujet du mot sola, sinon ceci, c'est un résumé de ce qui précède, Luther veut qu'il en soit ainsi, et il déclare qu'il est un docteur au-dessus de tous les docteurs dans la papauté tout entière. Les choses doivent rester ainsi, et je veux, de plus, les mépriser purement et simplement aujourd'hui comme hier, aussi longtemps qu'ils sont de tels individus, je veux dire des ânes. Il est vrai qu'un âne n'a pas besoin de beaucoup chanter, on le connaît suffisamment bien à ses oreilles. Alors, malgré ce qu'il affirme, et je vous rassure, le texte continue et la suite de la réponse est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante. Mais on la lira à la fin, ce sera le dessert. J'ai voulu commencer par ces mots parce que ça m'a rappelé, hein, quand j'ai pensé à ce thème Luther figure d'autorité, ça, j'ai pensé à la première fois que je les ai rencontrés dans les rayons d'une bibliothèque il y a un peu plus de 30 ans, où je connaissais quasiment rien à Luther, hein, et puis j'ai lu ça, et en tant qu'étudiant, ça m'a donné des sentiments assez mélangés. Premièrement, un sentiment de jouissance assez jouissif, effectivement, parce que là, il y a de quoi s'amuser en lisant. Et puis, d'autre part, quand même, une espèce de retenue, voire quasiment un dégoût devant cette écriture, devant cette façon d'écrire méprisante. La moindre des politesses, c'est de donner un peu de place à l'autre, même si on ne fait que semblant. Après, que l'autre s'en saisisse de cette place, il va falloir s'en débrouiller. Mais pour Luther, les papistes ont des trop longues oreilles pour qu'on leur fasse même de la place, vous voyez, dans ce texte-là en tout cas. Et pourtant, c'est là que le sentiment est mélangé, hein, j'arrivais pas à fermer ce livre, j'ai continué à lire, heureusement d'ailleurs parce que la réponse sérieuse vient après, enfin, et pourquoi j'arrivais pas à fermer ce livre? Sans doute parce que la première des choses que j'avais lues de Luther quelques semaines auparavant, c'était le traité de la liberté chrétienne. Et là, j'avais trouvé des mots, des phrases qui avaient fait autorité pour moi. Ces quelques mots autobiographiques disent à peu près l'essentiel de ce que je veux dire ce soir. Alors, je vais essayer de développer ça donc, dans ces deux parties. Donc, d'abord, essayer de voir comment aujourd'hui la question se pose tout à fait pratiquement à l'heure de la célébration de l'année Luther. Alors, il ne faut pas dire ça, paraît-il, ou du jubilé de la réforme, enfin vous intitulez ça comme vous voulez, justement, ça fait cette hésitation sur le titre, vous voyez, dit toute l'ambivalence du rapport des protestants à la figure à une figure en particulier à celle de Luther. Et puis, donc dans une deuxième partie, on lira un certain nombre de textes du réformateur que vous avez sous les yeux. Juste deux précisions avant d'entrer dans ces deux parties. Quand je parle d'autorité, en fait, je me situe ici dans une compréhension de ce concept, un peu dans la ligne de Hannah Arendt, qui a été donc qui a eu des successeurs, et un livre sur l'autorité qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est celui de Myriam Revaud-Allonne que vous avez dans la bibliographie, où grosso modo, au fond, l'autorité, qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, ça vient du latin qui signifie augmenter. Au fond, c'est l'effet d'une parole, ou plutôt l'attribut d'une parole qui est capable d'augmenter la qualité du rapport d'un individu à sa propre existence. C'est pour cela que l'autorité, au fond, n'a d'existence que si l'autorité est reconnue, à la différence du pouvoir qui, lui, s'impose. Pour le dire d'une autre manière, l'autorité, ça a à voir avec le sujet. Le pouvoir a affaire à des objets, même si ce sont des objets humains. Voilà. L'autorité, elle y a des notions comme la liberté, la responsabilité, et donc aussi la reconnaissance. Et puis la deuxième précision, je vous l'ai dite tout à l'heure en disant que ce serait une toute petite partie de cette thématique et qu'il y aurait naturellement bien d'autres choses à traiter. Alors d'abord, l'autorité du passé, répétition ou reprise. Alors, quand on entend l'expression « Luther, figure d'autorité », on peut entre autres comprendre le mot « figure » sous le sens de « image ». L'image d'un Luther imposant. Ça marche, c'est bon. D'un Luther qui a imposé son autorité à travers les siècles. Alors c'est bien sûr une image, c'est-à-dire une image taillée, comme celle que vous voyez défiler là. Donc c'est un certain nombre de mémorials, donc à la mémoire en l'honneur de Luther, qui ont été érigés dans certaines régions de l'Allemagne, essentiellement au cours du 19e siècle, où on a mis finalement un personnage sur un piédestal, littéralement. Le personnage Luther, c'est-à-dire le rôle, c'est ça ce que ça veut dire le mot personnage. Luther, on lui a attribué un rôle, je veux dire, allez, pour faire court, rassembleur de la nation allemande, avec des motivations très complexes, naturellement. Je veux dire, là-dedans, il y a des motivations religieuses dans le fait d'ériger de tels mémoriaux, il y a des motivations politiques, culturelles, etc., dans lesquelles je ne vais pas entrer. Naturellement, en Allemagne, dans un pays où le protestantisme a un certain poids, aujourd'hui, les protestants sont en pleine ambivalence devant ce genre de représentation, devant ce genre d'image. Et on pourrait dire que c'est plutôt sain d'avoir un certain malaise devant l'accumulation des images. D'une part, la spiritualité protestante, toute tendance confondue, veut les éloigner de l'idolâtrie. Et ça leur permet effectivement de prendre quelques distances avec cette image de Luther, comme ici, à Wittenberg, où l'Église luthérienne elle-même, en 2015, a pris l'initiative de ce geste symbolique, de bander les yeux. C'était dans le cadre d'un débat sur l'antijudaïsme de Luther, pour dire, voilà, il ne faut pas être des aveugles qui suivent des aveugles, sinon on va tomber dans une fosse, pour reprendre une parole des évangiles. Oui, Luther aussi, à ses aveuglements. D'autre part, et ça vaut surtout dans les pays où le protestantisme est minoritaire, en tout cas ça vaut beaucoup plus dans ces pays-là, comme le nôtre, le souci de leur propre visibilité fait que les protestants ne veulent quand même pas bouder la fête. Et j'imagine que si on voyait ça, cette couverture sous le titre « Le Nouvel Observateur » ou ces journaux en France, les protestants seraient quand même contents. Enfin, on parle de nous. On parle de Luther. On parle de nous. Et parler de Luther, ça aide à parler de nous. C'est-à-dire l'image, c'est un moyen d'exister dans la société médiatique aujourd'hui. Les protestants apprennent tout doucement, y compris les réformés français, à dépasser leur prévention vis-à-vis de l'image. Et ils y sont obligés, puisque la société médiatique d'aujourd'hui fait qu'on parle par l'image. Et j'imagine que ce slogan-là, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire une église de témoins, c'est-à-dire l'église incarnée dans des personnes en chair et en os, c'est-à-dire finalement dans des images, parce qu'on ne présente jamais que des images aux gens, ça fait partie de ce dégagement, de cette prévention contre l'image. N'empêche, le malaise subsiste. Est-ce qu'il faut adorer Luther ? Donc en Allemagne, les premiers mots de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Enfin, moi, comme ça, quand je l'ai eu le laïc ou le quidam qui n'a pas l'évangile de Jean dans la tête, qu'est-ce qu'il entend ou qu'est-ce qu'il voit ? Au commencement était la parole de Luther. Ça rend mal à l'aise quand même. Et on peut bien faire des colloques pour surtout mettre en balance, célébrer Luther ou la réforme avec un petit, quand même, c'est ce qu'il y a après le « ou » qui est le plus important, quand même. Alors, un autre moyen, en face du Luther médiatique, sous toutes ses formes, tiens d'ailleurs, en face du Luther médiatique, on peut avoir la réaction de dire « mais non, il faut être sobre avec les images » et avoir le logo de la Fédération des Églises Protestantes Suisses pour l'anniversaire de la Réforme, qui est quand même un peu plus sobre, vous voyez. Alors, il est vrai que on ne veut pas célébrer un homme du passé. Je reprends la couverture de ce livre. Si l'on veut célébrer Luther et donc célébrer la Réforme, et on le dit et on le répète, c'est pour dire finalement qu'est-ce que la Réforme nous apprend, en quoi la Réforme, et Luther aussi bien sûr, nous aide à vivre aujourd'hui. Célébrer le passé pour quelque part construire l'avenir, allez, disons-le comme ça. Pourtant, le malaise subsiste. Il est assez compréhensible parce que l'identité, l'image, l'identité imaginaire protestante s'est largement construite sur le rejet de l'ambiguïté, justement. L'ambiguïté des indulgences, où l'on prétendait finalement qu'il fallait que le chrétien soit pénitent, mais qu'il pouvait à un moment donné ne pas l'être s'il fait ce qu'il faut. Et donc la première phrase des 95 thèses dit que, au fond, la vie entière du chrétien est pénitence. Enlever l'ambiguïté. Alors quand le protestantisme, qui, quoi qu'on en dise, protestant, ça veut dire historiquement lutter contre, hein, paradoxalement. Quand on voit que ce contre quoi on veut lutter, ça nous habite nous aussi, eh bien finalement, il y a des questions à se poser. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément un handicap de se rendre compte que ce contre quoi on lutte, ça nous habite. Alors peut-être faut-il pas trop vite évacuer le malaise, mais essayer de l'explorer, de comprendre finalement qu'est-ce qui nous habite et qu'est-ce que c'est au fond que cette autorité de Luther, disons-le comme ça, en quoi est-elle sujet à idolâtrie peut-être ? En quoi peut-elle favoriser la foi ? Est-ce que la foi est possible sans idolâtrie ? J'en suis pas persuadé. Simplement peut-être essayer de voir où passe la limite. Le passé peut être figé en une image, donc le passé comme répétition, effectivement. L'image de Luther qui affiche ses thèses, mais une image, ça ne dit rien en soi. Une image ne dit que quelque chose dans le cadre d'une traduction de lecture de cette image. L'affichage des thèses, dont on parle toujours, tout en précisant, même dans les prédications, on en parle et on reparle, et chaque fois les prédicateurs un peu honnêtes aujourd'hui précisent toujours qu'en fait personne ne sait s'il a vraiment affiché les thèses ou pas sur la porte de l'église de Wittenberg. Mais quand même, l'image, on la garde. Pourquoi ? Quel est le statut de cette image ? Pourquoi faut-il que le passé soit représenté en image, en geste symbolique ? Alors j'ai un peu exploré ça et je me suis dit finalement Comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui cette image dans le protestantisme? Eh bien, on l'utilise beaucoup sous la forme du faire comme. Et finalement, c'est le geste qui compte. Alors, eh bien, le protestantisme présente l'alternative, d'une part, l'image de la vente des indulgences, et puis d'autre part, de suivre ou de faire comme l'image de droite plutôt que l'image de gauche. Luther, lutteur, briseur de système. Le bon côté de l'alternative est supposé connu. 2017, nos thèses pour l'Évangile. Et donc Luther fait autorité en tant qu'exemple, exemple d'un homme d'action. Il a affiché, ou en tout cas au moins il a écrit, ça on en est sûr, des thèses. Et faisons comme Luther. C'est-à-dire que ce qui importe dans le passé réinvesti dans l'image du passé, c'est quoi? C'est le geste, mais ce n'est pas la parole. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu des thèses qui importe. C'est le fait d'en énoncer. C'est pas la parole, c'est le fait de parler. Quand on s'intéresse après au contenu, je pense par exemple aux thèses sorties du Grand Kif, les 150 thèses du Grand Kif, on voit que au fond, ça n'a rien à voir avec les 95 thèses de Luther. J'allais dire, c'est presque contradictoire avec les 95 thèses de Luther. Mais on aura réinvesti le passé sous le mode de l'exemple d'un acte à suivre. Il y a une autre façon d'investir le passé. Alors, pour ceux qui connaissent Kierkegaard, j'ai repris ça, l'alternative entre répétition et reprise à Kierkegaard. La reprise. Et la reprise, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire le passé me reprend et je reprends le passé. Et ça aussi, ça a lieu dans le protestantisme actuel. Et j'en veux pour preuve le florissement des éditions de textes, non pas sur Luther, de spécialistes de Luther. Ça aussi, naturellement, il y en a beaucoup. Regardez sur Internet tout ce qui sort sur Luther depuis quelques années. Mais la réédition de textes de Luther lui-même. C'est quand même assez étrange que des textes du XVIe siècle soient réédités aujourd'hui. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je veux dire, mis à part dans les manuels scolaires pour les enfants, pour les jeunes. Voilà. Alors ça, c'est juste un exemple. Même les 95 thèses, qui pourtant, a priori, ne sont pas sur les indulgences, ne sont pas forcément la préoccupation première. Des gens normaux aujourd'hui, protestants, incroyants ou même catholiques d'ailleurs. L'éditeur, donc Mathieu Arnold, écrit dans l'introduction de ces 95 thèses, dans les premières pages, il précise que éditer aujourd'hui les 95 thèses ne va pas de soi, tant Luther y traite d'un sujet qui peut paraître dépassé, surtout dans le protestantisme. Et pourtant, donc il traite de la pénitence. Et pourtant, poursuit-il, quelle que soit leur motivation, nombreux sont les lecteurs qui souhaitent consulter ces thèses. Et donc Mathieu Arnold avait édité ses thèses déjà en 2004 et s'était épuisé, il a fallu on lui a demandé de reprendre une édition. Donc en 2014. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens, quand même, qui ne se contentent pas de l'image d'un homme du passé dont il faudrait reproduire plus ou moins les gestes, mais qui cherche à comprendre ce que les mots que cet homme a écrits il y a 500 ans peuvent bien encore avoir à leur dire aujourd'hui. Il s'agit bien d'une revisite du passé, parce que quand ils vont ouvrir ce livre, les gens, et vous par exemple, qui ne l'avez pas lu, vous allez tomber sur des mots comme indulgence, canon pénitentiel, satisfaction sacramentelle, purgatoire, trésor de l'Église, prémission plénière et d'autres. Et alors à la fin, il y a un glossaire. C'est-à-dire il va falloir faire l'effort de se plonger dans le passé, non pas dans une image du passé qui est transmise, parce qu'avoir les mots du passé, essayer de se plonger dans ce que le passé peut nous livrer aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est un effort. Rencontrer le passé dans son étrangeté. Un territoire étranger et qui m'est pourtant intime, puisque c'est de là que je tire ma propre histoire. aussi, en particulier quand, si je suis protestant. Autrement dit, la démarche qui consiste à lire Luther dans le texte, à ne pas se contenter des images, qu'elles soient pieuses ou caricaturales, c'est une manière d'explorer ce malaise protestant. Essayer de plonger dans ce texte d'une manière bienveillante. C'est ce que je vous propose donc dans cette deuxième partie, où il n'y aura plus de diapos, plus d'images, mais des mots.
Réseau FM+, radio associative régionale en Languedoc méditerranéen, émettant sur Montpellier et Nîmes, le professeur Christophe Singer aborde la question de l'autorité de Luther en nous invitant à distinguer image de Luther et propos de Luther au sens de proposition. Il développe maintenant ce second aspect.
Alors d'abord, il suffit de lire le Réformateur pour constater que très tôt, il a été conscient du bouleversement historique que provoquait sa prédication et ses écrits. « J'ai fait 5 fois plus que Huss, que Jean Huss », dit-il, en 1521 déjà. Et il ajoute « Et pourtant, je n'en ai pas fait assez ». Alors il y a tout un florilège de ce genre de citations dans le livre de Marc Lienhardt, Martin Luther, Un temps, une vie, un message, je vous y renvoie, il est dans la bibliographie. Je vous propose simplement le texte, le premier que vous avez sur le... Donc un texte de 1528, il est extrait d'une préface à un ouvrage d'un certain Stéphane Klingbeil sur le mariage des prêtres, sur l'ordination, c'est pas sur l'ordination, c'est sur le... Donc j'ai traduit comme j'ai pu, hein, d'après l'édition de Weimar, et en m'aidant un peu de Lienhardt qui en a traduit une toute petite partie. « Il faut pour une fois que je me glorifie, car cela fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On a réclamé pendant longtemps un concile pour réformer l'Église, et bien moi j'ai provoqué un concile et fait une réforme. Et cela fait sonner les oreilles des papistes et leur crève le cœur de méchanceté. Car je crois... que si le pape réunissait un concile, il n'arriverait pas à réaliser autant de choses. Premièrement, j'ai poussé les papistes vers les livres, et en particulier vers l'écriture, et j'ai chassé de la place le païen Aristote et les adeptes de la Somme, Thomas d'Aquin, ainsi que les sophistes avec leurs sentences. Si bien qu'ils ne règnent ni n'enseignent plus, ni dans les chaires, ni dans les écoles, comme ils le faisaient auparavant, ce qu'aucun concile n'aurait pu réaliser. Deuxièmement, j'ai calmé le grand cirque et la foire aux indulgences séductrices, ce à quoi aucun concile n'aurait osé toucher. Troisièmement, j'ai presque libéré les routes des pèlerinages et des processions. De même, j'espère que les monastères et les couvents seront fermés, là il y a une petite incertitude sur la traduction, et bien d'autres grandes affaires que les papistes doivent laisser tomber. Ce n'est pas pour rien qu'ils enragent et s'irritent, et je les remercie de me désigner comme un ennemi, et la cause de tout cela, je l'ai vraiment mérité. Loué soit Dieu. Amen. Donc on va passer le paragraphe suivant. Ainsi, parce que je les ai pourchassés vers l'écriture et qu'ils n'y comprennent rien, ni ne la mettent en pratique, Seigneur, quel hurlement sauvage et désordonné n'ai-je pas provoqué ? L'un clame sur la nature du sacrement, l'autre rugit contre le mariage, ici on aboie sur la messe, là ça meugle sur les bonnes œuvres, là-bas on murmure sur les couvents, et un autre encore grogne sur le sacerdoce. Bref, voici la réforme de Luther. Qui a provoqué cet étrange désordre et poussé ses têtes d'âne dans l'écriture comme si on avait amené plusieurs espèces d'animaux dans un zoo. Et alors là, il fait la liste, voilà, et où il compare chaque théologien qui lui est opposé à un animal précis. Et pourtant, je remarque que cela ne sert à rien de les avoir poussés vers l'écriture. L'oiseau ne peut chanter que comme le bec lui a poussé. Je leur ai mis le nez dans l'écriture et ils ne savent pas quoi en faire. Même moi, j'ai presque pitié d'eux. J'écris tant de livres, il ne s'en est pas trouvé un seul pour me répondre. Quand je les presse, ils sont muets sur ce que j'enseigne et veulent me faire la leçon sur des choses que je connais très bien d'avance, des commandements humains qui m'ont rendu à la fois paresseux et sûr de moi. Il vaut mieux que je les laisse crier et meugler. Alors bien sûr, il y a l'autoglorification, ça peut être, on peut être un peu interloqué, on a l'impression d'entendre un politicien en campagne. C'est assez rare dans le milieu des théologiens aujourd'hui qu'on s'exprime ainsi. Alors je vous rassure aussi, l'autre moitié de la préface, l'autre petite moitié de cette préface, elle est consacrée quand même au livre qu'il doit préfacer. Bon. Mais par-delà cette autoglorification, il y a quand même l'expression d'une frustration, vous avez vu, dans les dernières phrases, qui concerne l'impossibilité du dialogue. Il semble à Luther que tout ce qu'on lui dit, au fond, il a déjà entendu. Il n'y a rien de neuf. Et que ce dont il s'est détourné, on veut le lui resservir comme un plat réchauffé. Comme si ses adversaires avaient toujours quelques longueurs de retard sur lui dans la réflexion théologique. Alors ce qui est intéressant, c'est que la même franchise, orgueilleuse, disons-le, et la même frustration, alors orgueilleuse, il faudra voir, hein, parce que vous verrez dans les textes suivants, c'est plus fin que ça quand même. La même franchise et la même frustration apparaissent déjà en 1517, c'est-à-dire tout au début, l'année des 95 thèses. Et la lettre d'accompagnement des 95 thèses que Luther adresse à Johannes Lange, le 11 novembre 1517, donc quelques jours après leur diffusion, elle en témoigne. Et quand on lit ce texte, on se rend compte que c'est plus fin que simplement le bon gros théologien luthérien qui se glorifie de toutes ses actions et qui pleure sur l'incapacité des autres à lui répondre. En fait, les thèses avaient donc déjà fait jaser et on reprochait à Luther sa témérité et sa présomption. Et il répond ceci. Que sont ces théologiens scolastiques sinon des gens qui ne savent que critiquer ? Il leur est permis de juger à leur gré les opinions des autres, mais à moi, cela est interdit. Enfin, si mes thèses hardies leur déplaisent tellement et s'ils louent une sage réserve, puis-je leur demander pourquoi ils ne s'abstiennent pas eux-mêmes de porter un jugement sur moi et pourquoi ils n'attendent pas modestement la fin du débat ? Tu le vois, dit-il à Johannes Lange, nous sommes tous des hommes, c'est-à-dire des pécheurs. Nous nous empressons de retirer la paille de l'œil de notre frère et nous prenons plaisir à la poutre qui est dans notre œil. Un vice peut être chez un autre gros comme un moucheron, nous le passons au tamis. Chez nous, il peut être grand comme un chameau, nous l'avalons comme si c'était la meilleure des choses. Donc encore une référence à l'écriture. Pour ce qui est de ma témérité ou de ma modestie, je sais parfaitement, et là ça devient intéressant, que la vérité ne prend pas plus de valeur quand je suis modeste. Et qu'elle n'en perd pas quand je suis trop hardi. Je te prie donc instamment, ainsi que les autres théologiens d'Erfurt, de négliger les défauts de l'auteur, de fonder votre jugement sur mes écrits et eux-mêmes et sur mes conclusions et par-dessus tout de m'indiquer les erreurs qui peuvent s'y trouver. C'est un fait bien connu que nul ne peut publier quelque chose de nouveau sans orgueil ou tout au moins sans donner l'impression d'un esprit orgueilleux et ami de la dispute. À supposer que l'humilité elle-même entreprenne quelque chose de nouveau, elle sera aussitôt taxée d'orgueil par ceux qui sont d'un autre avis. Pourquoi a-t-on tué Christ et tous les martyrs ? Pourquoi les docteurs de l'Église ont-ils été en butte à l'hostilité et à la malveillance ? Sinon parce qu'on voyait en eux des hommes orgueilleux qui méprisaient la sagesse enseigne, ancienne et révérée et parce qu'ils apportaient des pensées neuves sans prendre conseil de ceux qui étaient attachés aux anciennes doctrines. Ce que je fais doit être fait non d'après le conseil des hommes, mais d'après le conseil de Dieu. Car si l'œuvre vient de Dieu, qui me l'interdira ? Dira. Et si elle ne vient pas de Dieu, qui pourra la faire triompher ? Non pas ma volonté, ni leur volonté, et là c'est important, ni notre volonté. Oui, c'est pas une affaire d'œcuménisme. Ni notre volonté, même si on est tous les deux d'accord, c'est pas ça qui importe. L'accord n'est pas un gage de vérité. Mais ta volonté soit faite, Père Saint qui est dans les cieux. Amen. Alors, trois remarques sur ce texte. Premièrement, dès 1517, et on n'a pas besoin de le lui faire remarquer, encore que là, il répond à quelqu'un qui le lui fait remarquer, Luther est conscient du caractère forcément ambigu de son geste. L'affichage, ou en tout cas la rédaction des thèses. Il ne conteste pas ce qu'on lui reproche. Hardiesse, témérité, orgueil, mais il l'assume tranquillement. Soit, je suis orgueilleux, bon, très bien, Maintenant, si au lieu de l'emballage, finalement, qui ne gagnerait rien à être beaucoup plus effacé et modeste, si au lieu de l'emballage, on parlait un peu du contenu, je te prie donc instamment, ainsi que les autres théologiens, de négliger les défauts de l'auteur, de fonder votre jugement sur mes écrits eux-mêmes et sur mes conclusions, et par-dessus tout, de m'indiquer les erreurs qui peuvent s'y trouver. Deuxième remarque, Luther ne cherche pas à creuser ses propres motivations. Au fond, il ne se justifie pas ni devant les autres, ni devant lui-même. Il ne va pas chercher dans ses états d'âme pourquoi il a fait ça. Il ne se soumet pas au jugement moral sur ce qui anime son geste réformateur. Et il résiste donc à la tentation qui ferait que n'importe qui nierait forcément ce qu'on lui reproche. Mais non, ce n'est pas pour me mettre en avant, etc. etc. Bien sûr, il le dit aussi en passant, etc. Mais là, en tout cas, il ne le dit pas. Pourquoi ? Mais parce que son attention est tournée non vers lui-même, mais vers le trésor qu'il a trouvé et qu'il a envie de partager. Et ce trésor, il y fait allusion d'une manière paradoxale dans ce texte. Il s'agit à la fois d'une nouveauté, vous l'avez vu, hein, mais en même temps, cette nouveauté, c'est la même nouveauté que celle que le Christ, que les docteurs, les martyrs de l'Église ont essayé de transmettre tout au long de l'histoire et pour laquelle ils ont subi le martyre, justement. La troisième remarque, c'est que ce trésor, c'est pas une idée à lui. Ça n'est pas son invention. Au fond, il est en train de dire, je prétends, je crois, que c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu que je transmets, ce trésor-là. Donc ce n'est pas mon idée, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Luther. Et c'est ça qui importe. Autrement dit, si c'est la parole de Dieu, alors elle fera son effet, elle fera son œuvre, parce que c'est Dieu qui agit par sa parole, ce n'est pas Luther. Alors naturellement, là, il fait, c'est aussi une allusion scripturaire à un épisode des Actes des Apôtres où les apôtres sont emprisonnés, ensuite on les relâche et on leur dit, il ne faut surtout pas prêcher, mais eux, ils continuent à prêcher, alors on les amène devant le Sanhédrin et là, le Sanhédrin leur dit, pourquoi vous avez fait ça ? On leur reproche, on vous avait dit de ne pas prêcher, vous l'avez fait quand même. Et Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, question d'autorité. Autrement dit, ce n'est pas de mon chef. Si j'ai fait ça, c'est parce que je suis obligé par une autorité qui est supérieure à celle du Sanhédrin. Et à la fin de l'épisode, comme une espèce d'inclusion, vous avez un des pharisiens, Gamaliel, qui est là et qui dit aux autres, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et là, il a exactement les mêmes arguments que Luther. Si c'est la parole de Dieu, on ne pourra rien faire contre elle. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, elle se détruira d'elle-même. Alors, bien sûr, on peut mettre l'audace, la verve et la témérité de Luther sur le compte de son caractère. On peut regarder ces textes d'une manière un peu psychologique ou pseudo-psychologique, parce que une fois qu'on a dit c'est le caractère de Luther qui s'exprime là, on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, le caractère ? Sinon, un certain nombre de symptômes, de signes. Oui, mais symptômes de quoi, alors ? Oui. Moi, je propose l'hypothèse que tout simplement, cette verve, cet orgueil qui s'assume, disons-le comme ça, c'est le corollaire de la conviction de justement n'être pas l'auteur de ce qu'il est en train d'écrire. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait son œuvre indépendamment de Luther. Et c'est pourquoi Luther peut à la fois assumer son autorité d'une certaine manière, puisque c'est bien lui qui a écrit ses textes, et en même temps, en être détaché. Affleure souvent dans son écriture des incises comme quoi, au fond, c'est pas moi. Moi, je voudrais bien ne pas, mais j'y suis obligé. Alors, on pourrait dire que c'est une sorte de posture d'intellectuel un peu suffisant, vous savez. Oh, c'est pas moi, etc. Mais finalement, il sait bien que c'est lui. Je crois que dans Luther, c'est pas cette posture-là qu'il a. C'est tout simplement l'expression d'une confession de foi, c'est-à-dire l'expression d'une expérience de la vérité qui contraint et qui libère. À la fois. Alors, un texte sur la vérité qui contraint, c'est le suivant que vous avez dans votre, sur votre papier. Une lettre à Spalatin, donc du 9 juillet 1520. Donc, le prince électeur de Saxe avait reçu de Rome des lettres, comme quoi, des reproches, au fond, des reproches, parce qu'il ne faisait rien contre Luther. Et donc, le prince électeur, qui aime bien Luther, finalement, il lui fait transmettre ses lettres en lui disant « Qu'est-ce que je dois répondre ?» Et donc, Luther, par Spalatin, qui est l'aumônier de la cour, répond ceci, donc il s'adresse à Spalatin, mais indirectement au prince électeur. « D'abord, tu sais que mes griefs sont plus justifiés que les leurs, que ceux de Rome. C'est ce que prouvent mes écrits dans lesquels je me plains d'avoir été entraîné dans cette affaire, non point par quelque humeur querelleuse, mais par une force contraignante. Ensuite, j'ai maintes fois offert la paix et proposé le silence. N'ai-je pas interrogé partout et demandé avec insistance que m'on démontrât mon erreur ? Enfin, je suis aujourd'hui encore, tout prêt à me taire s'il m'est permis de le faire, c'est-à-dire si l'on réduit au silence mes contradicteurs. C'est-à-dire que c'est les contradicteurs qui poussent Luther à parler. Tout le monde sait que si Eck m'a entraîné dans la discussion relative au pouvoir papal, c'est uniquement pour me déshonorer, me fouler aux pieds, moi, mon nom et tout ce qui est à moi, ainsi que notre université. Et ça, c'est important pour Luther. Mais comme il me voit résister à cet homme avec l'aide de Dieu, il m'accuse de chercher follement la renommée. Quelle renommée puis-je donc chercher, moi, pauvre homme, qui n'ai pas d'autre vœu que d'abandonner la vie publique et de pouvoir vivre dans la retraite et l'obscurité ? Que celui qui en a envie assume mes fonctions. Que celui qui en a envie brûle mes livres, mais je le déclare, tant qu'on ne m'aura pas déchargé de mon office, qui consiste à enseigner et à annoncer la parole, je serai libre d'exercer cet office. Entendez, je serai libre, c'est-à-dire contraint d'exercer cet office. J'ai déjà suffisamment de péchés sous la conscience, je n'y ajouterai pas ce péché irrémissible, je n'abandonnerai pas le ministère dont je suis chargé et ne me rendrai pas coupable d'un silence impie ni de négligence envers la vérité et envers tant de milliers d'âmes. Qu'ils punissent les autres, qui sans aucune raison ont déchaîné cette tragédie sur l'Église romaine en vue de leur propre gloire. Quant à moi, je suis innocent. Ce que j'ai fait, ce que je fais encore, je le fais sous l'empire de la contrainte, toujours prêt à rentrer dans l'ombre, pourvu que la vérité de l'Évangile ne doive pas, elle aussi, rentrer dans l'ombre. Ils obtiendront tout de moi, bien plus je leur offrirai moi-même, s'ils veulent laisser ouverte aux chrétiens la voie du salut. C'est la seule chose que je leur demande et rien en dehors de cela. Que peut-on demander de plus honorable ? Je ne demande ni un chapeau de cardinal, ni de l'or, ni rien de ce qui a aujourd'hui du prix à Rome. Mais si je n'obtiens pas cela, qu'il me retire mon ministère. Cela, c'est qu'il laisse ouverte la porte aux chrétiens. Hein. Qu'il me retire mon ministère et me laisse vivre et mourir dans un coin désert. C'est bien malgré moi que j'enseigne, pauvre homme que je suis, et à cause de cet enseignement, je dois souffrir bien des maux, tandis que les autres enseignent volontiers, etc., etc. Alors, le lendemain, Luther écrit une deuxième lettre à Spalatin, dans laquelle il affirme, et vous voyez, il a dû se passer quelque chose, je ne sais pas si c'est l'écriture qui a déclenché ça, peut-être, il affirme, pour moi, le sort en est jeté. Je méprise les fureurs et les faveurs de Rome, donc les promesses et les menaces. Je ne veux plus de réconciliation avec eux. Je ne veux plus rien avoir de commun avec eux pour l'éternité. Qu'ils condamnent et brûlent mes livres, moi, en revanche, je condamnerai et brûlerai publiquement tout le droit pontifical, donc ce qu'il fera quelques mois plus tard. C'en est fini de cette humilité, toujours montrée et toujours observée, en vain. Les ennemis de l'Évangile ne doivent plus se sentir renforcés par elle dans leur orgueil. Change de stratégie. Et puis, il y a la vérité qui libère, et c'est peut-être là qu'il y a un basculement. Début mars 1522, Luther quitte sa retraite donc à la Wartburg et revient à Wittenberg parce que là, la réforme, j'allais dire, le dépasse, en tout cas dépasse ce que lui imagine être la vraie réforme. Où on commence à détruire c'est la réforme radicale hein, de Karlstadt, entre autres. Une réforme violente qui contredit les deux fondements jetés par le traité de la liberté chrétienne, entre autres. Donc, la liberté chrétienne reçue dans la foi et l'amour du prochain qui fait que le chrétien est serviteur du prochain et non pas son maître. Et pour cela, pour essayer de lutter contre cette mauvaise compréhension de la réforme, il utilise la seule arme qu'il manie avec quelque adresse, c'est la parole. Il fait 8 prédications en une semaine Et le texte que vous avez sous les yeux, le texte suivant, c'est la deuxième, celle du lundi. Juste pour le contexte, parce que je vous ai mis juste un petit paragraphe. Le chrétien vit devant Dieu et devant son prochain. Devant Dieu, il vit par la foi. Devant le prochain, il vit par l'amour. La foi se confie dans l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain jaillit de la foi en l'amour de Dieu. Deuxième chose, c'est je résume ce qui précède. Hein. Dans la vie, il y a des choses nécessaires pour la foi et le salut, et des choses libres. Et alors, on pourrait penser, dans les choses nécessaires pour la foi et le salut, il faut contraindre les autres, parce qu'il faut qu'ils entrent par la bonne porte, si vous voulez. Et dans les choses où c'est égal, finalement, là, on peut être les serviteurs et raisonner par l'amour. Et ben, pas du tout. L'amour exclut la contrainte, même dans les choses qui sont nécessaires au salut. C'est-à-dire, on ne peut pas sauver quelqu'un contre lui-même. Et Luther prend alors l'exemple de la messe, comprise et pratiquée comme un sacrifice, c'est-à-dire une œuvre méritoire, qu'il appelle une chose abominable. Alors il dit bien, sur le fond, je suis d'accord avec vous qui avez aboli la messe d'une manière, par la contrainte de la loi, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour y arriver, il faut y arriver par l'amour et non pas par la contrainte. On doit prêcher, donc c'est le texte, mais on ne doit en arracher personne de force. On doit confier la chose à Dieu et laisser seulement sa parole agir sans notre participation ou nos œuvres. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas dans ma main les cœurs des hommes, comme le potier l'argile pour en faire ce qui me plaît. C'est Dieu qui a dans sa main les cœurs de tous les hommes pour les convertir ou les endurcir. Je ne peux, avec la parole, aller plus loin que les oreilles. Je ne peux pas arriver jusqu'au cœur. Or, comme on ne peut pas verser la foi dans le cœur, personne ne doit y être contraint et forcé. Car c'est Dieu seul qui fait cela. C'est lui qui rend la parole vivante dans les cœurs des hommes et quand et où il veut, selon sa connaissance divine et son bon plaisir divin. C'est-à-dire, pour que la parole ait un effet, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, il nous faut prêcher la parole, c'est-à-dire dire les mots qui disent la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la contrainte produit non pas des chrétiens, mais des faux dévots, des hypocrites et des cafards. Il y a toujours un langage très imagé. Et un peu plus loin, dans le même texte, vous voyez, « Prenez un exemple sur moi. Je me suis dressé contre les indulgences et tous les papistes, mais sans violence. Je me suis contenté de promouvoir, de prêcher et d'écrire la parole de Dieu. En dehors de cela, je n'ai rien fait de plus. Mais l'effet en fut tel que pendant que je dormais, pendant que je buvais de la bière de Wittenberg avec mon Philippe et Amsdorff, c'est Mélenchon et Amsdorff, la papauté s'est retrouvée plus faible que sous les coups que n'importe quel prince ou empereur avait pu lui asséner. Je n'ai rien fait. La parole a tout fait et tout réalisé. Je n'ai rien fait. J'ai laissé agir la parole. Je n'ai rien fait. On peut être assez étonné de l'insistance avec laquelle il dit « je n'ai rien fait » quand on a l'impression qu'il a tout fait. Et surtout quand on a lu les textes qui précèdent, vous voyez. Et pourtant, Luther n'est pas schizophrène, je ne crois pas en tout cas. Ce qui veut dire, c'est sa conviction que le résultat, l'effet de la prédication ne lui appartient pas, même si bien sûr la prédication c'est la sienne. L'autorité de Luther n'est pas l'autorité de Luther, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est témoin ou transmetteur d'une parole qui, elle, fait autorité. L'autorité réside non pas dans Luther, mais dans la parole dont Luther se fait le témoin, le porte-parole, et qui doit être reconnue non pas comme l'autorité de Luther, mais comme l'autorité de la parole de Christ. Et j'entends bien l'autorité de la parole de Christ et pas l'autorité de Christ. Parce que quand vous allez voir dans la parole de Christ, en particulier dans l'évangile de Jean, vous voyez que même le Christ a une posture ainsi. C'est-à-dire, ma parole n'est pas de moi. Mes paroles ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. L'autorité, s'il y a, celui qui la transmet n'en est jamais l'origine, même pas le Christ. Alors ça, c'est moi qui rajoute sans doute. Je ne sais pas si Luther est allé jusque-là. Moi, en tout cas, moi, j'y vais. Voilà. Et je voudrais m'acheminer vers la fin de cet exposé avec quelques mots de Ebeling dans quelques pages qui m'ont beaucoup aidé dans la préparation de test exposé dans son livre, un de ses livres sur Luther. Ebeling remarque que les revendications réformatrices n'étaient pas nouvelles au début du XVIe siècle. Et alors il pose la question, voilà, à quoi cela tient-il qu'on n'en soit pas resté cette fois-ci, donc avec Luther, à de simples mots, mais qu'on est passé à l'action réformatrice. Il nous faut d'emblée dépasser toutes les réponses partielles et superficielles par une réponse radicale qui semble paradoxale. Si on n'en est pas resté cette fois aux belles paroles, mais qu'on est passé à l'action, c'est parce que la nécessité et l'événement réel d'une réforme ont été saisis à une profondeur telle que la réforme ne pouvait plus être comprise comme relevant de l'action, mais uniquement de la parole. On se dit, alors, est-ce qu'il a bien lu ce qu'il a écrit ? Eh oui, il a bien lu ce qu'il a écrit. Pourquoi ? Au fond, la contradiction apparente est levée, oui, ça explique tout, quand on comprend que la question de la puissance de la réforme se retourne en question de l'autorité, ou on pourrait traduire de l'autorisation de la parole réformatrice. C'est pourquoi la question des événements réformateurs, de ce qui porte au caractère de l'action, est renvoyée à celle de l'Évangile lui-même tel qu'il s'est exprimé dans la réforme. Saisir la particularité des événements de la réforme revient à saisir l'essence de la proclamation réformatrice. L'action réformatrice n'est pas la réalisation de la parole réformatrice, mais bien la réalité de cette parole elle-même. Et elle est donc soumise à la logique de la cause première de la réforme, c'est-à-dire, si on ose le dire ainsi, à la logique de l'Évangile. Autrement dit, pour déterminer le caractère d'événement individuel de la réforme, c'est dans la parole qu'il faut le chercher, pas dans les actions. Alors bien sûr, on pourra en tant qu'historien faire de la sociologie historique, essayer de voir l'imprimerie, la puissance politique, etc., etc., qui conjuguées, tout ça, on fait la réussite. Ebeling raisonne en théologien, c'est-à-dire il essaye de voir finalement qu'est-ce qu'il y a au fond là. Et en particulier au fond du texte sur les indulgences, ce n'est pas la réaction contre un abus de l'Église. C'est la réaction contre un mensonge de l'Église. Quand Luther critique les indulgences, il critique le fait qu'on fasse croire aux chrétiens qu'ils puissent. Vous voyez ? C'est pas les affaires des sous et de la basilique Saint-Pierre. Alors ça aussi, ça apparaît dans les thèses. Mais ça, c'est le folklore. Ce qui est plus important, c'est la réaction contre le mensonge, c'est-à-dire rétablir la parole, la vérité, contre le mensonge. La parole réformatrice, entendue donc au sens de la prédication de Luther, puisque c'est ce qui nous occupe ici, n'a d'autorité que parce qu'elle s'autorise d'une parole et non pas d'une situation historique, aussi scandaleuse soit-elle. Une parole qui se trouve toujours en amont. Le lieu de l'autorité, c'est le lieu de l'antériorité. C'est-à-dire le lieu de quelque chose qui est là avant et qui m'autorise, ou qui me contraint, ou qui me libère. Tout ça, c'est pareil, pour parler. Ebeling analyse trois étapes de la réforme qui illustrent ça. D'abord, il dit « la nature de la parole, c'est d'être écouté ». C'est une phrase du jeune Luther. Luther n'est pas un observateur des défauts de l'Église et il se dit « tiens, il faut que je réforme l'Église ». Luther est un observateur de ses propres défauts à lui, c'est-à-dire, plus que ça, de son péché. Et il sent qu'il a besoin d'une réforme lui-même. Son but, ce n'est pas de changer le monde, mais d'expérimenter pour lui-même la parole qu'il a le métier d'enseigner aux autres. Et donc, la réforme commence avec la réforme intérieure dans le cœur de Luther. La grâce, c'est d'abord la grâce dont Luther est le premier bénéficiaire, pas d'abord l'annonceur de la grâce. Et tout ce qu'il faudrait s'opposer à cette parole-là, Luther le dénonce alors comme mensonge. Tout ce qu'il voudrait recouvrir finalement ce lieu de l'expérience d'une parole libératrice, Luther le dénonce comme mensonge. La deuxième étape, Luther ne cesse de dire « c'est par obéissance à la parole que je dis tout cela ». Je ne veux pas me charger d'un péché plus grand que tous mes autres péchés, péché plus grand qui serait de garder la vérité captive. Le désir de Luther est de remplir la tâche qui lui est confiée, parce qu'elle lui est confiée, c'est-à-dire parce qu'il a l'autorité, parce qu'il a été autorisé et contraint à le faire. Le fait qu'il a la charge d'être théologien et enseignant. Et là, en fait, et troisièmement, ce que dit Ebeling, c'est que Luther n'a pas de programme. Je parlais tout à l'heure des théologiens en campagne, des politiciens en campagne. Luther n'a pas de programme de réforme. Il se laisse conduire par le développement de sa réflexion théologique. Le risque auquel Luther essaye de résister, c'est de devenir de réformateur une sorte de révolutionnaire, de visionnaire d'un monde nouveau. Le monde nouveau, il le laisse à l'initiative de Dieu. C'est pour ça qu'il lutte contre les enthousiastes qui veulent établir le monde nouveau à Wittenberg, à Münster ou ailleurs. Il ne s'agissait pas d'introduire la réforme en érigeant une nouvelle loi, mais en libérant les consciences par la certitude, la parole de la justification. Alors il est temps de conclure. Comme promis, je vous lis la suite de ce que je vous ai lu tout au début sur l'épître sur l'art du traduire. Alors la réponse, le versant sérieux de la réponse, je vous dis, je vais conclure par là, puisque vous verrez les derniers mots disent quelque chose quand même de cette aventure de la parole, au fond, dont Luther se fait un des porte-paroles. À la suite de cette réponse assez violente contre les papistes, les ânes et tout ça, Luther se dit « Bon, maintenant, je vais quand même te répondre sérieusement. » On va dire ça comme ça. Et alors, il fait une espèce de cours de linguistique sur la fonction de l'adverbe « allein »,« seulement » en allemand. Il insiste bien d'ailleurs dans ce passage, c'est l'adverbe « seulement » et pas l'adjectif « seul ». Ce n'est pas la foi « seul » dans ce texte-là qu'il va vous le dire, mais la foi, par la foi « seulement hein. ». Autrement dit, ce n'est pas un slogan qui devient une image, mais c'est un discours. Je le lis. L'usage de notre langue allemande implique que lorsqu'on parle de deux choses dont on affirme l'une en niant l'autre, on emploie le mot « solum », l'adverbe, « seulement » à côté du mot « pas » ou « aucun ». Par exemple, lorsqu'on dit « le paysan apporte seulement du blé et pas d'argent ».« Non, je n'ai vraiment pas d'argent actuellement, mais seulement du blé. »« J'ai seulement mangé, mais pas encore bu. »« As-tu seulement écrit, mais pas relu ?» et ainsi de suite. De manière constante, dit-il, dans l'usage quotidien. Car ce ne sont pas les lettres de la langue latine qu'il faut scruter pour savoir comment on doit parler allemand, comme le font ces ânes. Mais il faut interroger la mère dans sa maison, les enfants dans les rues, l'homme du commun sur le marché, et considérer leur bouche pour savoir comment ils parlent, afin de traduire d'après cela. Alors ils comprennent et remarquent que l'on parle allemand avec eux. Si j'osais une paraphrase, je vais l'oser. Je dirais, alors ils comprennent et remarquent que le règne de Dieu s'approche. Voilà.
Sur le réseau FM+, antenne de Montpellier, dans le cadre d'une série de la faculté de théologie protestante de notre ville sur Luther, année Luther oblige, Christophe Singer, professeur dans cette faculté, vient de poser la question de l'autorité de Luther précisément. Une chose est l'image de Luther, dont le héros d'une certaine Allemagne, autre chose, l'appel de Luther à ne reconnaître d'autorité que dans l'Écriture et dans le Christ. Au revoir et à bientôt pour un prochain parcours sur FM+.